Bienvenue à l'épisode 27 de Végétal Valley. Ici, c'est Stéphane Pire qui reçoit Jonathan Piron.
Bonjour Jonathan Piron.
Bonjour Stéphane Pire.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ?
Donc, je suis conseiller à la prospective pour Etopia. Etopia, c'est un centre de recherche et d'éducation en écologie politique,
oui,
qui est basé à Namur et qui a justement pour ambition de s'interroger sur toutes les innovations liées à l'écologie politique, au développement durable, aux recherches justement en transition.
Oui.
On en entend beaucoup parler aujourd'hui à travers toute une série d'initiatives, que ce soit en matière économique, en matière sociale, mais également dans les questions liées à la démocratie. Donc, c'est un peu s'interroger sur le présent, faire l'état des lieux des crises qui nous frappent, des crises qui vont nous frapper dans ces différents domaines, et de voir justement comment est-ce qu'on peut proposer des initiatives de transition qui sont destinées notamment à nous faire réfléchir sur la manière de retrouver un peu de prospérité. Pas de croissance, mais de prospérité.
Donc on parle bien de prospérité sans croissance, hein.
On parle justement de prospérité sans croissance. C'est le fait un peu de sortir du dogme de la croissance, de la redistribution de la croissance et aussi de tout ce qu'on appelle l'écoulement des richesses qui, on se rend compte aujourd'hui avec la crise économique qu'on est en train de vivre, mais qui est en train de se muer en profonde crise sociale, en crise également de la société. Mais finalement, que la croissance ne marche plus. Elle ne va peut-être pas revenir d'ailleurs. Les différents chiffres qui sont sortis aujourd'hui par les grandes institutions ne sont pas nécessairement positifs sur le retour de la croissance. Mais c'est alors se dire comment est-ce qu'on fait pour retrouver cette prospérité sans croissance, pour réduire les inégalités et pour anticiper aussi les crises qui vont venir dans les 10-15 prochaines années. Je pense à la crise climatique qui est la plus connue, mais aussi la crise de l'épuisement des ressources, la disparition justement de toutes ces matières premières qui aujourd'hui, notamment en région wallonne, font de notre tissu industriel et notre tissu économique.
Ok. À ce propos, donc, est-ce qu'il reste du coup, selon toi, un emploi pour tous ? Est-ce que tu crois qu'on peut encore mettre au travail toute la population comme auparavant ? Ou est-ce qu'il va falloir repenser aussi la manière dont on investit notre temps ?
Mais tout est lié en fait. Et moi, je pense que ce dont aujourd'hui on a vraiment besoin, en Wallonie, mais aussi à Liège, c'est d'innovation. Et c'est de l'innovation qui n'est pas seulement économique, mais c'est aussi l'innovation sociale, une innovation technologique. La manière de penser le travail, la question du temps de travail, la manière également de penser l'économie à différents niveaux, la manière de consommer, la manière de produire, la manière de financer aussi les différents tissus économiques. Ça ne se fait pas seulement au niveau macro, donc à l'échelle d'une région, avec ce qu'on va produire, mais également la manière dont on vit dans nos villes. Et ce sont toutes ces initiatives de transition qui, justement, vont permettre de protéger l'économie locale. On parle beaucoup, par exemple, aujourd'hui, des monnaies complémentaires.
Mm-hmm.
Eh bien, les monnaies complémentaires,
comme
qu'est-ce qu'elles ont ?
Comme le Valeureux, par exemple.
Comme le Valeureux à Liège.
Donc, tu appelles ça monnaie complémentaire, hein, pas alternative ?
Il y a les deux, en fait, on peut essayer.
D'accord.
Les deux termes, pour le moment, sont encore acceptés. Donc,
ouais.
C'est justement rendre un peu, je vais prendre le mot barbare, résilient.
C'est ça. Ouais.
Notre tissu économique, c'est empêcher que différentes crises viennent frapper encore plus durablement notre tissu économique, surtout le tissu économique local, et que ce qui est produit et consommé par notamment les PME, qui sont la principale ossature de notre économie aujourd'hui en Wallonie et à Liège, puisse tenir le coup face à ces différents chocs. Et alors des initiatives comme les monnaies complémentaires sont un très bon moyen justement pour les protéger.
C'est ça, oui. Ça crée quoi ? Ça crée un filet de sauvetage en cas de problème systémique ou...
Ça crée
Qu'est-ce
un...
qui pourrait arriver en fait ? Donc si on vit une chute de l'euro, en quoi, par exemple, le Valeureux pourrait nous sauver ou nous donner de la résilience ?
Mais il faut faire attention aussi, c'est pas un modèle qui va être exportable à l'ensemble de la société, mais c'est un peu, si tu veux, une réflexion par lasagne. C'est-à-dire qu'à différents niveaux, il y a des initiatives qui vont pouvoir se mettre en place et qui vont pouvoir justement protéger ceux qui travaillent dans l'économie réelle.
D'accord.
Et ce sont toute une série d'innovations, j'insiste vraiment sur le mot d'innovation, parce que c'est ça qui est fondamental, d'innovation économique, d'innovation sociale.
Okay.
C'est de l'économie circulaire, par exemple, qui permettent justement d'investir dans l'économie réelle.
Oui.
À travers des financements collaboratifs, par exemple, l'économie collaborative, le crowdfunding, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est ce qui permet en fait de dégager de l'argent pour des projets qui sont créatifs et qui vont justement essayer de créer des emplois nouveaux, des emplois locaux, parce qu'on se rend compte que ce sont justement ces différents types d'emplois locaux et nouveaux qui sont les plus durables et qui profitent justement le plus à la société, à la localité ou à la région dans laquelle ils sont créés, et qui permettent alors justement de réinventer, de retrouver cette prospérité qu'on a un peu perdue ces derniers temps, parce qu'à force de tout remettre dans le dogme de la croissance, on n'insiste que sur la création artificielle de richesses, mais qui ne descend plus du tout justement au niveau, au niveau de base, qui est celui de la population et de ceux qui travaillent et qui triment tous les jours.
Ok, donc du coup, tu as transitionné très vite et très bien, visiblement c'est ton boulot, vers les enjeux. Donc Vegetal Valley, pour réexpliquer pour ceux qui nous ont jamais entendus, on s'occupe de désintermédiation, hein, donc on essaye de couper le plus possible le chemin, de raccourcir le chemin entre les producteurs locaux de la province, de notre province liégeoise, vers les clients finaux, hein, vers les consommateurs. Ce qu'on fait aussi du coup, hein, qui est un peu similaire en termes de communication, c'est qu'on crée des choses comme ce podcast. On fait en sorte que des acteurs peut-être pas assez connus comme toi et comme beaucoup de monde dans notre région puissent s'exprimer publiquement et donner leur avis. Donc on a bien entendu ton enjeu, l'enjeu que tu mets en avant en tout cas sur la partie liégeoise. On a eu beaucoup de gens qui sont venus nous parler, dont le directeur du Grès, Jean-Luc Poymers, mais aussi les universitaires comme Bernard Rentier. Donc en effet, l'enjeu, c'est d'arriver à trouver une proportion entre l'économie réelle et tout ce qu'on a créé de tertiaire à côté. Pour toi, à côté de ça, à côté du climatique, quel serait un autre enjeu à mettre en avant à Liège ? Quand on te parle d'emploi, tu penses à quoi ?
Mais moi, la première réflexion quand on me dit emploi, c'est il faut justement protéger l'emploi en diminuant les différents coûts que l'emploi représente aujourd'hui. C'est la fameuse compétitivité de l'emploi. L'emploi coûte cher. Je trouve que c'est une fausse réponse.
C'est un postulat, oui. Donc,
mais c'est une fausse réponse parce que quand on réfléchit aux coûts qui ont vraiment explosé pour les entreprises, évidemment, il y a le coût de l'emploi qui, en 10 ans, a augmenté de 30%. Uh-huh. Mais le vrai coût qui a explosé en 10 ans, c'est celui de l'énergie et des dépenses en matière première et qui, lui, a dépassé les 100%.
Ouais.
Et donc, c'est surtout aussi sur ce postulat-là, et le postulat des matières premières, qu'on doit vraiment aujourd'hui réfléchir, se positionner et créer. Mmh. Et je vais prendre en fait un exemple avec un cas très concret qui est porté ici en Wallonie, c'est celui de l'écologie industrielle et de l'économie circulaire. On a aujourd'hui toute une série de zonings industriels autour de Liège qui ont des coûts en matières premières, en déchets, en consommation d'énergie, parce que c'est pas que l'énergie électrique, c'est aussi en eau.
D'accord.
Qui ont explosé.
Mmh.
Et ces différentes entreprises et PME qui se retrouvent dans des zonings industriels travaillent chacune dans leur coin.
C'est ça.
On parviendrait déjà à faire travailler ces différentes entreprises ensemble.
Ouais.
Et à créer des synergies sur la réduction de leur consommation en eau,
ouais,
en déchets.
Uh-huh.
Il y a toute une série de coûts qui seraient alors vraiment à un niveau très très bas et qui permettraient justement d'investir alors cet argent qui est gagné dans toute une série d'autres domaines comme la recherche et développement, comme la création d'emplois, et ça marche. Il y a des exemples qui ont été menés durant le plan Marshall 2.0, notamment dans le cœur du Hainaut avec le zoning industriel de Tertre, où différentes entreprises en fait se sont retrouvées. Ce qui était déjà très innovant parce qu'en fait, elles n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble.
C'est ça.
Et elles se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour justement essayer de limiter nos différents coûts énergétiques ? Et alors, avec l'aide notamment des différents investes intercommunales qui existent dans la région, elles se sont regroupées pour aborder la question de limiter le coût des déchets. Comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble ? Limiter aussi le coût des dépenses en électricité, limiter le coût des dépenses en eau. Il y a différentes études qui ont été menées et finalement, elles ont décidé de ne prendre que la seule problématique de l'eau.
C'est ça.
Parce que sur d'autres thématiques, comme notamment les déchets, il y avait des questions de brevets ou en tout cas de protection de certains secrets industriels qui étaient mis en avant. Mais sur la thématique de l'eau, ils se sont dit que c'était un projet sur lequel on doit un peu se lancer. Et non seulement ça a marché, leurs coûts ont diminué, mais en plus, elles ont créé entre elles des relations de confiance qui n'existaient pas auparavant. Elles se parlent et elles ont lancé toute une série d'autres relations dans la manière dont leur zoning est pensé. Dont même la mobilité à l'intérieur de leur zoning est pensée. Et avec ça, on est parvenu justement à créer un nouveau projet dans lequel des investissements ont été donnés dans certains projets de recherche et développement qui n'existaient pas auparavant. Et elles ont créé de l'emploi. Et elles ont créé quelque chose de neuf. Et quand, moi je suis assez frappé quand je rencontre ici à Liège, on avait mené notamment l'année dernière avec Etopia un projet sur le redéploiement industriel dans lequel on avait fait venir des intercommunales mais également des entreprises. Et la plupart me disaient, mais on n'a pas l'habitude de travailler ensemble et moi je ne connais même pas l'entreprise qui dans mon zoning est à 100 mètres de moi.
C'est ça.
Et donc on parviendrait déjà simplement à toucher à cette absence de dialogue entre ces différents acteurs, à les faire travailler ensemble, à limiter leurs coûts dans la production et dans l'acheminement de l'énergie, on arriverait justement à lancer une nouvelle dynamique qui aujourd'hui n'existe pas encore. C'est ça l'écologie industrielle. Mmh. Et ça permet justement d'ouvrir la voie à ce qui auparavant n'existait pas, à donner de la créativité à des projets qui n'en avaient plus beaucoup, et à relancer aussi une certaine vision dans l'innovation industrielle, dans l'innovation sociale et dans la manière justement de comprendre aujourd'hui comment on fait de l'industrie en Wallonie.
D'accord. Alors dans le cadre d'économie circulaire et de réallocation de friches et en même temps de mise en rapport, on a déjà eu quelques podcasts ici, on a eu Verdir, on a eu le Reverse Métallurgie de Jacques Pellerin. Alors toi de ton côté, est-ce que au-delà de l'éducation, de la communication, est-ce que tu entrevois des solutions? Donc le plan Marshall 2 points verts a été remplacé par le 4.0, hein, si je me
souviens. Oui, c'est ils ont sauté le 3.
Ils ont sauté le 3, donc le 2 points verts était le 3. C'est comme dans Gaston Lagaffe, hein, et Franca, il en manque un, c'est juste que la série n'est pas numérotée pareil. Donc il y a toujours une histoire de circulaire. Maintenant, toi, à ton avis, quel serait un type de solution? Est-ce qu'il faut faire appel aux invests ou est-ce qu'il faut plutôt faire un roadshow, enfin une espèce d'évangélisation des acteurs industriels locaux comme Prayon, comme Mitra, comme...
Mais ça dépend quels sont les objectifs. Mmh. Évidemment que les invests et les intercommunales ont un rôle à jouer, que les autorités publiques ont aussi un rôle à jouer, mais il faut sortir de cette idée de rapports verticaux, en fait. Mmh. Moi, je pense vraiment que la manière dont on va aujourd'hui permettre à la province de Liège de se redéployer d'un point de vue industriel, c'est en créant de la confiance entre les acteurs, de l'horizontalité. Si une autorité publique vient avec son projet en tête en disant c'est comme ça que vous, entreprise, vous devez vous positionner et que vous devez bouger, ça ne va pas marcher. Et c'est ce que plusieurs acteurs nous ont dit, c'est que à chaque fois que ça s'est passé de cette manière-là, ça n'a pas pris.
C'est ça.
Parce qu'il n'y avait pas l'intérêt, parce qu'il n'y avait pas l'envie, ou parce que c'était encore une fois des obligations qui étaient données à des acteurs qui ne sont pas nécessairement preneurs de la manière dont l'autorité publique voit les choses.
C'est ça.
Et donc, ce qui est vraiment fondamental, c'est de la confiance. Et donc de permettre à ces différentes personnes de se rassembler ensemble, de discuter ensemble, de voir qu'il y a des choses sur lesquelles, bah, oui, ils vont se regrouper, des choses sur lesquelles bah, ils n'ont pas intérêt à se regrouper, des choses qui ne les intéressent pas, et de les laisser justement créer ensemble leurs projets.
Ouais.
Et de créer des nouveaux rapports, des rapports horizontaux. Il faut sortir du vertical, en fait, qu'on fait aujourd'hui dans l'économie traditionnelle. C'est ça que cette innovation de monter en puissance et de prendre de plus en plus d'ampleur dans leur déploiement industriel et économique. Et c'est aussi mettre en avant, et je trouve que c'est peut-être ce qui manque un peu dans le nouveau plan Marshall, mettre en avant des idées, des propositions auxquelles on ne pense pas encore énormément aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple de la problématique des matières premières. On parle aujourd'hui énormément d'épuisement des ressources, de la hausse du coût des matières premières. Mais dans le cadre de l'économie circulaire, on reste encore très linéaire finalement. Hein. Les différents déchets ne sont pas réutilisés à l'intérieur d'un même zoning, on les fait transiter entre différents lieux. Ou alors, une seule partie seulement n'est réutilisée. Ou alors, on dit, mais de toute façon, il faut les faire venir de l'extérieur et le coût va monter et devenir de plus en plus important. Mais ce dont on oublie aujourd'hui en Wallonie, c'est qu'on a des énormes mines qui existent et qui sont inexploitées. Mmh. Et ce sont des mines urbaines.
Et tu m'as fait peur, là, parce que je t'entendais partir vers le fracking. Là.
Non.
Oui.
Mais c'est justement sortir un peu de l'idée qu'on a aujourd'hui de mines, c'est pas le gaz de schiste.
Oui, d'accord.
Les mines urbaines qu'on trouve, en fait, regorgent énormément de biens qui sont totalement inutilisés. Non, mais je ne vais pas aller jusque-là. Mais c'est un peu cette idée aussi de se dire que tout ce qui nous entoure à l'intérieur de ville, notamment dans les matériaux de construction, mais si on parvenait à faire un peu d'éco-design, Et à formater justement les différents immeubles qui sont construits, qui sont détruits sur du recyclage. Tout le cuivre, notamment, qui se trouve à l'intérieur, pourrait être réutilisé et revenir justement dans cette économie circulaire qui servirait à diminuer le coût des matières premières.
C'est ça. Es-tu impliqué de près ou de loin dans les projets genre Reverse Metallurgy qui justement essaie de récupérer de l'acier, du cuivre, etc., du parcours? Est-ce que vous voyez ça plutôt en termes de documentation avec un pas de retrait un peu macroéconomique?
Ce qu'on essaye de faire, nous surtout, c'est de réunir les différents acteurs et de venir avec nos propositions, mais qui parfois vont même très loin dans les questions liées à l'économie collaborative, par exemple, sur le financement collaboratif, sur la production, la consommation collaborative, et de voir avec les différents acteurs, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Donc, voilà, nous ne sommes pas un centre de recherche au pouvoir. Nous avons simplement l'envie d'être les aiguillons, ceux qui vont un peu aller titiller justement ceux qui avancent sur ces questions-là ou qui sont directement concernés, que ce soit les syndicats, mais que ce soit aussi les invests, que ce soit Le Gré ou Agoria, et leur ouvrir en fait les portes d'un nouveau monde et leur dire que des alternatives existent. Non seulement ça marche, mais vous pouvez y trouver votre intérêt.
Ok. Ok. Tes projets perso à côté de ça, tu en as?
Alors, mes projets perso, donc j'ai déjà des très beaux projets familiaux, mais ça, je les garde un peu pour moi.
Ouais.
Et aussi, non, mes projets perso, mais c'est continuer justement à parler de toutes ces alternatives, de ces transitions, à faire en fait ce que j'appelle de la contagion culturelle. C'est sortir un peu de l'idée du TINA qu'on a aujourd'hui. There is no alternative. Si, il y en a plein. Il y a plein de chouettes projets, notamment à Liège, qui bougent dans tous les sens, des projets locaux. On a parlé du Valeureux, de la monnaie transition, mais il y a aussi le Repair Café, il y a le Relap Café. Et donc, ce sont des outils extraordinaires parce que ça stimule la créativité. Et ça montre qu'aujourd'hui, la crise économique n'est pas une fatalité. La crise sociale non plus n'est pas une fatalité. Et il y a moyen de créer quelque chose dans lequel non seulement on se réapproprie son emploi, mais aussi on se réapproprie son économie, voire même sa vie tout court. Parce qu'il y a différentes autres réflexions qui viennent à côté sur la manière dont on pense le temps de travail. Et moi, je trouve que c'est une formidable bouffée d'air frais, en fait. Parce que ça permet justement, et il faut grâce à ce genre de podcast, montrer que ces alternatives existent, mais en plus qu'elles fonctionnent, qu'elles marchent. Et que donc, on ne doit pas s'enfoncer dans cette espèce de fatalisme actuel d'horizon bouché. Il suffit simplement de se retrousser les manches, et d'oser en fait envisager d'autres manières de consommer et de produire aujourd'hui.
Ok, alors la dernière question qui est une question existentielle, voilà. L'avantage d'avoir un casque, c'est pouvoir entendre quand je dis existentiel.
Oui, avec l'accent.
Avec l'accent, parce que c'est Liège. Donc la question existentielle, c'est à refaire, hein. Qu'est-ce que tu fais autrement ?
Ah, oui, c'est une question existentielle.
C'est une vraie question existentielle.
Mais à refaire, ça veut dire qu'on s'est planté quelque part, en fait, et qu'on a des regrets.
Pas toujours, hein. Tu peux très bien dire, tiens, j'aurais attendu 5 ans, ou voilà, ça peut être sans regret.
Mais en fait, j'ai envie de dire que je changerai pas grand chose. Il y a certainement des choses dont je suis déçu, des choses que j'aurais peut-être voulu aussi qu'elles n'arrivent pas de cette manière-là, mais ça fait partie de la vie finalement. Ce sont parfois aussi avec, pas les accidents de l'histoire, mais avec aussi ces petits accros, ces petites pierres sur lesquelles on bute, mais qu'on apprend à se relever, qu'on apprend à avancer, et que justement on en fait des expériences qui sont positives pour soi-même et pour son entourage. Et donc, je suis historien à la base, donc je n'ai pas changé le passé. Je vais peut-être l'étudier pour mieux comprendre ce que je fais aujourd'hui et envisager alors l'avenir avec plus de certitude, mais plus d'expérience en ayant moins peur.
Ok, ouais, parfait. Merci beaucoup, Jonathan.
Merci, Stéphane.
Et bonne journée.
Également, bonne journée.
Merci.